Ivanhoé, chapitre 18. Partons, notre voyage doit avoir lieu à travers le vallon et les broussailles, où le daim joyeux bondit près de sa mère timide, où le chêne élevé, interceptant par ses rameaux les rayons du soleil, dessine une sorte de marqueterie en échiquier dans l'avenue tracée sur la verte pelouse. Levons-nous et partons, car ces sentiers sont agréables à fouler quand le soleil, dans toute sa force, est monté sur son trône. Ils sont moins riants et moins sûrs quand l'astre de Phébé, de sa lueur douteuse, éclaire l'obscurité de la forêt. La forêt d'Étrique. Lorsque Cédric le Saxon vit son fils tomber sans connaissance dans l'arène de Ashby, son premier mouvement fut d'ordonner aux gens de sa suite de prendre soin de lui. Mais les paroles qu'il s'efforçait en vain de prononcer expirèrent sur ses lèvres. Il ne pouvait prendre sur lui de reconnaître, en présence d'une si nombreuse assemblée, le fils qu'il avait banni et déshérité. Cependant, il commanda à Oswald de ne pas perdre Ivanhoé de vue, et de prendre avec lui deux de ses serfs pour le transporter à Ashby dès que la foule se serait écoulée. Oswald fut devancé dans cette œuvre de miséricorde. La foule se dispersa en effet, mais il ne trouva plus le chevalier. Ce fut en vain que les chansons de Cédric chercha partout son jeune maître. Il suivit jusque dans sa tente les traces du sang qui coulait de ses blessures. Mais le jeune héros n'y était déjà plus. Il semblait que des fées l'eussent emporté loin de ces lieux. Superstitieux comme l'étaient tous les Saxons, Oswald aurait peut-être expliqué par cette supposition la disparition d'Ivanhoé, s'il n'eût tout à coup aperçu un homme couvert d'une espèce de casaque d'écuyer dans lequel il reconnut les traits de son camarade Gurt. Inquiet du sort de son maître et désolé de ne le point trouver, le gardeur de pourceaux le cherchait partout, oubliant, dans sa préoccupation d'esprit, de prendre les précautions qu'exigeait le soin de sa propre sûreté. Oswald crut de son devoir d'arrêter Gurt comme un déserteur sur le sort duquel son maître devait prononcer. De nouvelles recherches sur ce qu'était devenu Ivanhoé ne purent rien apprendre à Oswald, sinon que le chevalier avait été placé par des valets bien vêtus dans la litière d'une dame qui se trouvait au nombre des spectateurs, y avait été immédiatement transporté hors de l'arène, ce qui le détermina à retourner auprès de Cédric pour prendre de nouveaux ordres, emmenant avec lui le gardeur de pourceaux, qu'il regardait comme un fugitif qui s'était soustrait à ses devoirs. Cédric avait été dans les plus vives alarmes à l'égard de son fils jusqu'au retour de l'échanson, car la nature avait fini par l'emporter sur le stoïcisme patriotique devant lequel elle avait cédé d'abord. Mais dès qu'il sut qu'Ivanhoé se trouvait entre des mains probablement amies, l'amour paternel fit de nouveau place à l'orgueil blessé et au ressentiment que lui causait la désobéissance de son fils. « Qu'il aille où il voudra, dit-il. Que ceux pour l'amour desquels il a couru tant de périls prennent soin de ses blessures. Il est plus fait pour se signaler dans les tours de jongleur de la chevalerie normande que pour soutenir l'honneur et la réputation de ses ancêtres saxons avec le glaive et la hache, anciennes et invincibles armes de son pays. Si pour soutenir la gloire de ses aïeux, dit Lady Rowena, qui se trouvait présente, il suffit d'être sage au conseil et brave au combat, d'être le plus courageux parmi les courageux, et le plus doux et le plus aimable entre les plus galants. Je ne connais que la voix de son père qui puisse... Silence, Lady Rowena! Ce sujet est le seul sur lequel je ne puisse vous entendre. Préparez-vous pour le banquet du prince. Nous avons été invités avec une rare courtoisie, avec des égards tels que ces fiers Normands en ont rarement usé envers nous depuis la fatale journée d'Hastings. Je m'y trouverai, ne fût-ce que pour montrer à ces orgueilleux étrangers combien peu le destin d'un fils qui a vaincu leur plus vaillant guerrier peut troubler le cœur d'un Saxon. « Et moi je n'irai pas, dit-elle. Prenez garde que ce que vous prenez pour du courage et de la fermeté ne soit au fond que de la dureté de cœur. Restez donc ingrate dame, c'est votre cœur qui est endurci, puisque vous sacrifiez les intérêts d'une nation opprimée à un frivole, je dirais même un illégitime attachement. Pour moi je me rendrai avec Athelstan au festin du prince Jean d'Anjou. » Ils partirent en effet pour assister à ce banquet, des principaux événements duquel nous avons déjà rendu compte. Dès qu'ils furent sortis du château, les deux Tan, avec leur suite, montèrent à cheval, et ce fut pendant le tumulte occasionné par ce départ que, pour la première fois, les yeux de Cédric tombèrent sur le fugitif gardeur de pourceaux. Le noble Saxon, comme nous l'avons vu, était revenu du banquet de très mauvaise humeur, et par conséquent disposé à saisir le premier prétexte pour donner un libre cours à sa colère. « Des fers ! » s'écria-t-il, « des fers ! Qu'on le garrotte, Oswald ! Indibert, misérable ! Comment osez-vous laisser en liberté ce coquin de valet ?» Les compagnons de Gurt, n'osant hasarder la moindre remontrance en sa faveur, lui attachèrent les mains derrière le dos avec la première corde venue. Il se soumit sans murmurer à ce traitement rigoureux. Seulement, il jeta sur son maître un regard de reproche, en lui disant « Cela vient de ce que j'aime votre sang plus que le mien. » « Il est grandement temps, dit le noble Athelstan, car, si nous ne hâtons le pas, l'arrière-souper que nous a fait préparer le digne abbé de Waldhof ne vaudra plus rien. » Nos voyageurs firent pourtant assez de diligence pour atteindre le couvent de Saint-Witold avant qu'un tel malheur pût se réaliser. Issu d'une ancienne famille saxonne, l'abbé reçut ses deux compatriotes avec toute l'hospitalité que cette nation aimait à déployer. On resta à table fort avant dans la nuit, ou, pour mieux dire, jusqu'au point du jour, et l'on ne prit congé de l'abbé qu'après avoir partagé avec lui un somptueux déjeuner. Au moment où la cavalcade sortait de la cour du monastère, il arriva un incident un peu alarmant pour des Saxons, qui de tous les peuples de l'Europe avaient dans les présages la foi la plus superstitieuse, et aux opinions desquelles il faut attacher plusieurs usages singuliers dont parlent nos chroniques nationales. Les Normands, étant une race mêlée et plus avancée alors en civilisation, avaient perdu la plupart des préjugés importés de la Scandinavie par leurs ancêtres, et se piquaient de penser plus sainement sur de pareils sujets. Dans le cas dont nous parlons, l'appréhension de quelques malheurs prochains fut inspirée par un prophète bien respectable, sans doute. Un gros chien noir et maigre, assis sur ses pattes de derrière, se mit à hurler d'une façon lamentable quand les premiers cavaliers franchirent la porte du couvent, et par ses aboiements répétés, pendant qu'il courait tantôt en avant, tantôt en arrière de la cavalcade, parut témoigner un désir extrême de se joindre à la compagnie. « Je n'aime pas cette musique, mon père, » dit à Cédric le noble Athelstan, car il le nommait souvent ainsi, par respect pour son âge. « Je ne l'aime pas non plus, » notre oncle lui dit Vamba. « Je crains fort que nous n'ayons les musiciens à payer. » « À mon avis, » répliqua Athelstan, sur le cerveau duquel la bonne bière de l'abbé, car la bière de Burton était déjà en grande renommée, avait produit une impression favorable. À mon avis, nous ferions mieux de retourner sur nos pas et de ne partir qu'après le dîner. C'est signe de malheur que de trouver sur son chemin, lorsqu'on en est encore, pour ainsi dire, à jeun, un moine, un lièvre ou un chien qui aboie. « Allons !» s'écria Cédric d'un ton d'impatience. « À peine la journée nous suffira-t-il pour arriver au terme de notre voyage. Quant à ce chien, je le connais, c'est celui de ce fripon de Gurt, et, comme son maître, un déserteur inutile. » En parlant ainsi, Cédric, irrité de ce retard, se dressa sur ses étriers et lança une javeline contre le pauvre Fanx. Car c'était Fanx qui, ayant suivi les traces de son maître, s'était égaré en le cherchant, et lui témoignait de cette manière sa joie de l'avoir retrouvé. La javeline blessa à l'épaule le fidèle animal et faillit le clouer en terre, poussant des cris de douleur. Il s'enfuit loin de la présence du tan courroucé. L'âme du gardeur de pourceaux était émue de colère, car il fut plus sensible au meurtre projeté contre son chien qu'au mauvais traitement qu'il avait reçu lui-même. Ayant essayé vainement de porter la main à ses yeux, il dit à Vamba, qui, voyant la mauvaise humeur de son maître, s'était prudemment tenu à l'écart, « Je t'en prie, rends-moi le service de m'essuyer les yeux avec le pan de ton manteau. La poussière me fait pleurer, et ces liens dont je suis chargé ne me permettent pas de faire le moindre mouvement. » Vamba fit ce qu'il désirait, et ils marchèrent quelque temps côte à côte en silence. Enfin, Gurt ne fut plus maître de son émotion. « Ami Vamba, dit-il, de tous ceux qui sont assez fous pour servir Cédric, tu as seul le talent de lui rendre ta folie agréable. Va donc le trouver, et dis-lui que, ni par affection ni par crainte, Gurt ne le servira davantage. Il peut me faire flageller et me charger de fer, me trancher la tête, mais il n'est pas en son pouvoir de me forcer à l'aimer ou à lui obéir. Va donc lui dire que Gurt, fils de Beowulf, ne veut plus le servir.
Assurément, dit Vamba, tout fou que je suis, je ne remplirai pas cet imprudent message. Cédric a une autre javeline fixée à sa ceinture, et tu sais qu'il manque rarement son but. Peu m'importe, dit Gurt, il peut en faire un de moi. Hier, il laissa son fils Wilfrid, mon jeune maître, baigné dans son sang. Aujourd'hui, Il a voulu tuer en ma présence la seule autre créature qui m'ait jamais montré de l'attachement. Par saint Edmond, saint Dunstan, saint Vitold, saint Édouard le Confesseur et tous les autres saints du calendrier saxon, car Cédric ne jurait jamais par aucun saint qui ne fût d'origine saxonne, et tous ces gens l'imitaient en cela. Je ne lui pardonnerai jamais. Cependant, à ce que je crois, dit le bouffon, qui jouait fréquemment le rôle de conciliateur, notre maître n'avait pas le projet de faire du mal à Fonks. Il ne voulait que l'effrayer. Car, si tu l'as remarqué, il s'est dressé sur ses étriers comme pour faire passer sa javeline par-dessus le chien. Et son intention eut réussi sans un malheureux bond que l'animal a fait au même moment. Il n'a donc reçu qu'une égratignure qu'il me sera facile de guérir, avec un emplâtre de poids de la largeur d'un penny. Si cela était vrai, dit Gurt, si je pouvais le croire. Mais non, j'ai vu partir la javeline, et elle était bien dirigée. Je l'ai entendu siffler en l'air avec toute la méchanceté, toute la rage de celui qui l'avait lancée. Et après avoir été violemment fixée au sol, elle frémissait encore, comme si elle eût regretté d'avoir manqué son but. Par le pourceau chéri de Saint-Antoine, je ne veux plus le servir. Après ces paroles, Gurt se renferma dans un silence morne et tellement profond que toutes les facéties du jovial Vamba ne purent le lui faire rompre de longtemps. Cédric et Athelstan, qui marchaient à la tête de la troupe, s'entretenaient de la situation du pays, des dissensions élevées dans la famille royale, des querelles féodales de la noblesse normande, et de la chance qui s'offrait aux Saxons opprimés de secouer le joug de l'étranger, ou du moins de profiter de ses convulsions intestines pour se rendre redoutable au vainqueur, sujet pour lequel Cédric était tout enthousiasme. Le rétablissement des franchises de sa race était en effet devenu l'utopie chérie de son cœur, et il y eut sans peine sacrifié son bonheur domestique et les intérêts de son fils. Mais pour opérer cette révolution en faveur des Anglais indigènes, il fallait qu'il régnât entre eux un parfait accord, et qu'ils agissent de concert sous un chef reconnu. La nécessité de prendre ce chef parmi les Saxons du sang royal était non seulement évidente, mais elle était une condition formelle de ceux à qui Cédric avait confié ses secrets desseins et ses plus chères espérances. À défaut d'autres avantages, Athelstan avait au moins ce titre, et quoiqu'il possédât peu de talent nécessaire à un chef de parti, il avait un extérieur imposant, un certain degré de bravoure, l'habitude des exercices militaires, et, de plus, il paraissait disposé à déférer aux avis de conseillers plus expérimentés que lui. Enfin, il était connu pour libéral, hospitalier, et doué d'un bon naturel. Cependant, quels que fussent les droits d'Athelstan à se présenter comme le chef de la confédération saxonne, le plus grand nombre penchait pour Lady Rowena, qui descendait en ligne directe d'Alfred le Grand, et dont le père avait été un guerrier renommé par sa prudence, son courage, sa générosité. La mémoire de ce chef était toujours chère à ses compatriotes opprimés. Il n'eût pas été difficile à Cédric, s'il l'eût voulu, de se mettre à la tête d'un troisième parti, qui aurait été non moins redoutable que les autres. S'il n'était pas du sang royal, il avait du courage, de l'activité, de l'énergie, et par-dessus tout, ce dévouement sans borne à la cause nationale, qui lui avait valu le surnom de Saxon, et sa naissance ne le cédait qu'à celle d'Athelstan et de Lady Rowena. Mais à ces nobles qualités, il joignait un grand désintéressement, et au lieu de chercher à diviser encore sa nation affaiblie, en créant une faction à son profit, son plan favori était de fondre ensemble les deux autres parties, en unissant Athelstan et Lady Rowena. L'attachement mutuel de celle-ci et de son fils Ivanhoé mettait obstacle à cette union, et elle était la cause pour laquelle il avait banni Wilfrid de la maison paternelle. Cédric avait pris cette mesure rigoureuse dans l'espoir que l'absence de son fils ferait oublier à Lady Rowena la prédilection qu'elle avait pour lui. Mais il se trompa dans son calcul, désappointement que du reste on aurait pu attribuer en partie à la manière dont il avait élevé sa pupille. Cédric, pour qui le nom d'Alfred était comme celui d'une divinité, avait entouré l'unique rejeton de ce grand roi de tous les égards qu'on aurait à peine accordé à une princesse reconnue. La volonté de Lady Rowena avait presque toujours été une loi dans la maison de Cédric, et lui-même, comme s'il eût voulu donner le premier l'exemple de l'obéissance la plus entière à ce rejeton d'une tige royale, se faisait gloire publiquement de lui obéir comme le premier de ses sujets. Accoutumé ainsi à l'exercice non seulement d'une volonté libre, mais d'une autorité presque despotique,
Lady Rowena était peu disposée à céder aux tentatives qui auraient pour but de contrôler ses affections et de la contraindre à une alliance opposée à son inclination. Elle était au contraire très portée à défendre son indépendance, en un point sur lequel la plupart des personnes de son sexe, qui ont été habituées à l'obéissance et à la soumission, apportent souvent de la résistance à l'autorité de leurs parents ou de leurs tuteurs. Tout ce qu'elle sentait vivement, elle l'exprimait sans gêne et avec franchise. Et Cédric, ne pouvant renoncer à son ancienne déférence pour les opinions invariables de sa pupille, ne savait trop comment s'y prendre pour faire prévaloir les droits d'un tuteur. Ce fut en vain qu'il essaya d'éblouir sa pupille par la perspective d'un trône imaginaire. Douée d'un jugement sain, elle regardait le projet de Cédric comme d'une exécution non seulement impossible, mais encore très peu désirable. Du moins, en ce qui la concernait personnellement, il n'aurait pu réussir. Sans chercher à dissimuler la préférence ouverte qu'elle accordait à Wilfrid d'Ivanhoe, elle déclara que, quand même ce chevalier favorisé cesserait d'exister, elle se réfugierait dans un couvent plutôt que de partager un trône avec Athelstan, qu'elle avait toujours méprisé, et que maintenant elle commençait à détester à cause des chagrins et des ennuis qu'on lui suscitait à son sujet. Néanmoins, Cédric, dont l'opinion sur la constance des femmes était loin de leur être favorable, persistait à user de toute son influence pour faire réussir le mariage projeté, qui, d'après ses idées, devait servir si efficacement la cause des Saxons. La soudaine et romanesque apparition de son fils lui avait paru avec raison porter un coup mortel à ses chères espérances. L'amour paternel, il est vrai, avait un instant remporté la victoire sur son orgueil outré et son ardent patriotisme. Mais ces deux sentiments avaient repris tout leur empire, et Cédric était déterminé à tenter un dernier effort pour l'union de sa pupille et d'Athelstan, et à prendre ensuite les mesures propres à hâter l'affranchissement de sa patrie. C'était de ce dernier sujet qu'il s'entretenait en ce moment avec son compagnon de route, non sans avoir de temps en temps raison de se plaindre, comme Hotspur, de rencontrer un homme si faible pour l'exécution d'un projet si glorieux. C'était, pour ainsi dire, présenter une jatte de lait écrémé à un palais délicat et sensuel. Il est vrai qu'Athelstan avait une bonne dose de vanité et que ses oreilles étaient agréablement chatouillées par un discours qui lui rappelait sa haute origine et son droit héréditaire aux hommages et à la souveraineté. Mais son amour-propre se trouvait satisfait par le salut de main de ses vassaux et des Saxons qui l'approchaient. Il savait au besoin braver le danger, mais il redoutait l'embarras d'aller le chercher. Et si d'un côté il tombait d'accord avec Cédric sur les droits qu'avaient les Saxons à recouvrer leur indépendance, de l'autre, il n'était pas moins convaincu de la validité de ses droits à occuper le trône lorsque cette indépendance aurait été conquise. Mais quand le Saxon lui parlait de sa nécessité de faire valoir ses légitimes prétentions, il redevenait Athelstan l'indolent, se montrait irrésolu, temporiseur, peu disposé à rien entreprendre. Et les énergiques exhortations de Cédric n'avaient pas plus d'effet sur son âme impassible que des boulets rouges qui, en tombant dans l'eau, y produisent un frémissement et un dégagement de vapeur, puis aussitôt se refroidissent. Si, après s'être épuisé en vains efforts de ce côté, tel qu'un cavalier qui serrerait de l'éperon une haridelle épuisée de fatigue, ou un forgeron qui battrait un fer froid, Cédric passait à sa pupille. Il n'en tirait guère plus de satisfaction. En effet, comme sa présence interrompait l'entretien de Lady Rowena et de sa suivante favorite, entretien qui roulait sur la valeur et sur le destin de Wilfrid, Elgitta ne manquait pas de venger tout à la fois elle et sa maîtresse, en rappelant la manière dont le noble Athelstan avait été désarçonné dans la lice, sujet le plus désagréable qui pût résonner à l'oreille de Cédric. Pendant le voyage, le Saxon n'éprouva donc que contrariétés qui augmentèrent encore sa mauvaise humeur habituelle. Et plus d'une fois, il maudit intérieurement le tournoi, ceux qui en avaient conçu l'idée, et sa propre folie qui l'y avait conduit. Vers midi, sur la proposition d'Athelstan, les voyageurs s'arrêtèrent près d'une fontaine, sur la lisière d'un bois, pour faire reposer leurs chevaux et se restaurer eux-mêmes avec les provisions dont le généreux abbé de Saint-Vitold avait pour eux chargé une mule. Cette halte, qui fut un peu longue et suivie de plusieurs autres, ne laissant plus aux voyageurs l'espérance d'arriver à Rotherwood avant la nuit, ils furent obligés de hâter davantage le pas de leur monture.